Je demande toujours au Seigneur ce qui est essentiel. Et Jésus, dans mon cœur, me dit ceci: occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Je voudrais, chers amis, que vous compreniez cette phrase. Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Alors, je vais prendre quelques versets, quelques citations bibliques pour essayer d'éclairer cette parole. Cette parole intime qui est dans mon cœur. Et vous savez, j'ai depuis très longtemps une relation comme ça, très intime avec le Seigneur. Je n'ai pas de mérite. Il me l'a donné. Je l'ai souvent négligé et bâclé. Mais, je me rends compte que je dois vous appeler à cette relation intime. Je dois vous rappeler qu'il est vivant et qu'il veut votre relation. Il veut votre rencontre. Il vous aime et il vous connaît par votre nom. Il a donné sa vie sur la croix pour vous et il est là en train de vous regarder même quand vous dormez. C'est lui le Seigneur de votre vie comme de la mienne. Je n'ai pas de privilège à votre égard. Et je suis simplement là pour faire le porte-parole de ce qui est votre noble destinée, noble cause avec Jésus. Amen. Alors, je prends par exemple Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19, et je lis ceci. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je suis certain que dans votre cœur, vous avez une attente ardente d'être réellement l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas comment ça peut se passer. Mais être enfant de Dieu, être frère de Jésus, être l'ami de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Et toute la création a cet ardent désir. Paul dit cela dans Romains 8, verset 19. Je me repose sur cette vérité pour croire que nous avons tous une noble destinée, glorieuse. Et évidemment, il y a quelque chose qui est arrivé dans la trajectoire humaine et qui nous a dévié de l'absolu, dévié de la bonne relation. C'est la vanité. Romains 8, 20, la création était soumise à la vanité, non de son gré. Ben oui, on n'a pas voulu être soumis à ça, hein, ce qui nous égare, mais à cause de celui qu'il y a soumise. À cause de celui qu'il y a soumise. Il y a donc quelqu'un qui a pris la responsabilité, Adam et Ève ont pris la responsabilité de sortir de la bonne relation et ils nous y ont entraînés. Je pense que quand ils ont réalisé la profondeur de la catastrophe qu'ils avaient allumée, ils ont demandé pardon à Dieu. C'est pour cela qu'on voit dans Genèse chapitre 3 verset 21 que Dieu dépose une peau d'agneau sur eux, c'est-à-dire la promesse du salut en Christ. Mais toute la création ne peut pas rester sous la vanité, sous cet égarement. Et nous avons l'espérance d'être affranchis de la servitude. Nous avons l'espérance d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est le verset 21. Nous avons l'espérance. C'est-à-dire, le mot en français, et peut-être dans d'autres langues, est un peu faible. La certitude, la conviction. Il y a une déposition dans notre cœur, une conviction intérieure profonde que nous sommes appelés à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Gloire de Dieu, liberté de la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans une pleine relation vivante. C'est pour ça que je vous dis dans la prière, quand le Seigneur me confie ceci, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. C'est une pleine liberté de gloire entre le Seigneur et celui qu'il aime. Je ne peux souhaiter que ce beau cadeau spirituel intérieur à vous aussi, une âme habitée d'une bonne relation sincère et vraie avec Jésus. Bien sûr, nous sommes imparfaits, mais Jésus est tellement grand, il s'occupera de la petite brebis que nous sommes chaque fois pour nous ramener à lui, dans ses bras, sur ses genoux, dans son amour, dans sa parole, dans son Saint-Esprit. Alors, j'ai un autre verset, 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 et 11. Dans la réalité de tous les jours, les chrétiens réellement ne s'entendent pas vraiment. Dans la réalité de tous les jours, il y a des hauts et des bas, et parfois des catastrophes. C'est pas toujours très très joli joli. Et c'est depuis le début, vous savez. C'est pas irrémédiable. C'est pas inéluctable. C'est quelque chose qui peut être temporaire. C'est quelque chose auquel il y a une réponse. Et la voici. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même sentiment, un même esprit. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Eh oui, on peut dire que depuis tant d'années, l'Église est une Église éclatée, une Église déchirée, une Église qui ne fait pas toujours la volonté de Dieu et qui s'attache à des choses secondaires, et qui s'attache à des traditions, à des rites, et puis voilà. Je me refuse à accorder du crédit à tout cela. C'est impossible de s'attarder à ces choses-là. C'est comme si dans un couple, papa et maman et les enfants, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils font exploser tout. Et puis ils vont tous se tirer la tête, chacun de son côté, et pendant 3-4 jours, 2 semaines, ils ne se parlent pas. Non. Si nous adhérons sincèrement à notre famille, nous adhérons sincèrement de cœur et d'esprit à une vie de famille, eh bien, nous ne faisons pas tarder les orages, nous ne nous endormons pas sur nos colères, nous nous rapprochons les uns des autres, nous nous demandons pardon, nous faisons des gestes de prévenance, des gestes de réciprocité, pas d'égoïsme. Et nous progressons ensemble, malgré nos limites. Eh bien, il est ainsi pour toute assemblée chrétienne. Je vais prendre le 2 aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9. Paul dit ceci, c'est une phrase remarquable que je n'ai découverte que... il y a 2 ans peut-être, hein. Vous savez pourtant, quand on lit la Bible, on croit qu'on l'a lu, mais vous savez, hein, quelle leçon d'humilité. Hein. 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, donc son immense amour, sa venue pour nous, sa mort sur la croix, sa résurrection, puis sa présence parmi nous. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre, s'est fait humble à Nazareth. Il s'est fait tout petit. Et il l'a dit. Il l'a dit à ses parents dans le temple. Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Mais c'était fait si humblement, dans le cadre d'une famille. Ne pourriez-vous pas aussi vous occuper des affaires de votre Père des cieux dans le cadre de votre famille? Et avoir cette priorité. Jésus, ensuite, a travaillé avec ses frères et sœurs. On voit dans Marc et dans Luc qu'il avait 4 frères et au moins 2 sœurs. Donc, dans les épîtres de Jacques et Jude, ce sont 2 frères de Jésus. Et donc, contrairement à la tradition catholique qui dit que ce sont des cousins, en grec, les cousins, c'est ek adolphos, frère à côté, sur le côté. Quand c'est mis adolphos, c'est frère, sœur. Et en grec, dans le Nouveau Testament, c'est adolphos. Et donc, il y a une véritable famille. Quand Marie a conçu du Saint-Esprit Jésus, ensuite, de Joseph, elle a conçu 5, 6, 7 enfants. C'est pas étonnant dans ce pays-là. Ils ont tous travaillé ensemble et ils ont tous manifesté ensemble un esprit d'approche, un esprit de réciprocité. Et le Saint-Esprit agissait, mais bien sûr aussi la vanité humaine. Et donc Jésus a vécu un petit peu dans la boue humaine de toutes les familles, la boue du péché, la boue de la vanité, du moi-je, mais toujours, toujours, il a été riche de son amour, pauvre d'orgueil, pauvre de pouvoir, il a conquis les âmes de sa famille par son saint amour. Sa véritable nature est une nature pauvre par rapport aux hommes, par rapport à l'orgueil humain, mais elle est tellement riche aux yeux de Dieu. Et de même, aujourd'hui, Jésus est si humble, si pauvre, que nous ne l'apercevons pas. Et pourtant, il est là, et de sa pauvreté, il veut nous enrichir. Sa véritable pauvreté, c'est l'absence d'orgueil, l'absence de prétention, de domination, d'impureté, l'absence d'arrogance. Mais, il supporte tout en nous. Il croit tout en nous. Il ne soupçonne point le mal en nous. Il est patient avec nous. Et il veut parler à notre cœur. Il veut s'occuper de mon cœur, de mon âme et de mes pensées et de mon corps. C'est pour ça, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Alors, je prends un autre verset dans Romains 8. Romains 8, versets 27 et 28. Vous savez, chers amis, et le véritable christianisme, c'est la relation avec Jésus. Il n'y a rien d'autre, hein? Ni cathédrale, ni basilique, ni évêque, archevêque et tout le reste. C'est de la frime, tout ça, venu du monde. Le véritable christianisme, c'est la relation avec Jésus. Sans plus. Jésus n'a rien demandé de plus. Alors, il est quand même formidable, n'est-ce pas? Que nous ayons de l'argent ou pas, que nous ayons des titres universitaires ou pas, nous soyons complètement manuels ou complètement intellectuels, nous avons la capacité d'être avec lui. Parce qu'il veut être avec nous. Il faut l'accepter, évidemment. Romains 8, verset 27. Verset 28. Nous savons, en conclusion, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous Dieu? Deuxième chose, êtes-vous appelés selon son dessein? Vous savez, vous avez sans doute eu des souffrances, des ennuis, toutes sortes de choses. Et si vous vous êtes senti appelé à vous tourner vers Dieu, mais écoutez cet appel. Écoutez cet appel. Et pas forcément des tuiles. On peut avoir eu des grands moments de bonheur, des grands moments devant la nature, en ayant un bébé dans les bras, entre conjoints, en s'aimant tendrement. Et on peut avoir ressenti un appel à grandir, à être plus que nous-mêmes, plus. Et cela, dans Ecclésiaste, Salomon dit que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme un désir d'éternité. Nous pouvons faire l'expérience à travers des choses favorables comme défavorables de l'appel à l'éternité. À l'éternel, à notre Seigneur. Alors, voilà, je vous ai raconté un peu comment je reçois l'appel intime de mon maître, aujourd'hui, tous les jours, et voici trois points sur lesquels je vais me fixer. Plaçons l'absolu là où il le faut. L'absolu est invisible. L'absolu est spirituel. L'absolu est divin, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Glorifiez Jésus sans cesse. Combien de fois, quand je suis seul, j'aime être seul avec le Seigneur, et chaque fois que je suis restauré, parce que des fois je suis très à plat, pas bien, ça arrive, comme vous. Nous sommes humains. Hein. C'est très dur d'être humain. C'est très dur d'être sur cette terre parfois. Eh bien, et parfois c'est très joyeux. Mais il y a beaucoup de moments d'affliction. N'est-ce pas? Eh bien, moi, mon bonheur, c'est de prendre mon petit tapis, de me tourner vers Jérusalem, où j'ai été voir le Golgotha, le tombeau, où j'étais voir le mont des Oliviers où Jésus reviendra, et j'admire ces lieux où Jésus est venu, puis je pense à 92 endroits que j'ai visités avec trois amis à travers Israël en 12 jours, qui confirment un petit peu l'autorité de toutes les Écritures, que tout s'est bien passé comme ça, etc. J'avais 60 ans quand je suis monté dans un tas de ferraille qu'on appelle un avion. Alors, pour simplement recevoir une confirmation spirituelle de toute la foi que je menais depuis l'âge de 4 ans. Alors, je vais vous dire une chose. Il en résulte quelque chose, que vous ayez été en Israël ou pas. Du moment que vous le voulez, vous le désirez, dites des mots d'amour à Jésus. Glorifiez-le. Dites des mots d'amour. Vraiment. Dites des mots d'amour, et pas une fois, mille fois. Jésus aime ça. Christ aime ça. Dieu aime ça. Il n'attend que cela de nous. Des mots d'amour du fond du cœur, de nos pensées, de nos âmes. Il n'attend que cela de nous. Glorifions Dieu notre Père, glorifions Jésus-Christ, glorifions le Saint-Esprit. Voilà le bonheur qui restaure les forces. Vous trouverez des nouvelles forces si vous le faites, je vous le garantis. Tous ceux que j'ai assistés à leur mort, tous ceux que j'ai aidés à passer de ces conditions terrestres à la condition spirituelle céleste, tous ceux qui avaient une relation comme ça avec Jésus étaient dans le bonheur, avaient des yeux formidables de bonheur. D'autres étaient dans l'angoisse, la terreur et s'accrochaient à ma présence, et c'est clair. Je ramassais énormément d'attaques de Satan à ce moment-là. Je priais pour que Satan recule, que l'Esprit Saint puisse et mettre sa paix chez ces personnes. Mais c'est clair, il y avait des personnes qui n'avaient entendu qu'avec les oreilles, pas entendu avec le cœur. Ils n'avaient pas fait l'expérience de Jésus. Ils étaient passés à côté, bien qu'ils sachaient qu'il existait. Et là, c'est sûr que, en tant que pasteur, il faut énormément de patience, de compréhension, et se mettre à la place de la personne qui est là. Et surtout croire à l'autorité de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est vivant, qui peut se révéler à la personne dans les quelques minutes avant son envol vers l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, 2e aux Corinthiens 13, 4. 2e aux Corinthiens 13, 4. Et voici. 13, 4. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Oui, mais volontaire, désiré, voulu. Hein? Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ce sont des paroles très belles, très gentilles, très douces de la part de Paul. Donc, Jésus vit par la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi, nous sommes faibles en lui. Lorsque nous sommes faibles, chers amis, lorsque nous sommes faibles, nous avons une chance formidable. C'est que nous avons perdu l'esprit de présomption, l'esprit de vanité. Et lorsque nous sommes faibles, si nous le glorifions, lui parlons avec des mots d'amour, nous le glorifions. Nous sommes dans une relation qui va progresser et notre faiblesse va se changer en joie. Comme dit Dieu dans le livre de Néhémie, la joie de l'Éternel sera votre force. Comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, ma joie sera en vous, elle sera parfaite. Donc l'expérimentation de la joie de Dieu en nous, se fait par un chemin assez étonnant, celui de la faiblesse et de la glorification. Alors, je m'en vais dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Je pourrais parler de sujets très 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 concrets chaque fois, mais je vais dire, ça peut arriver de temps en temps. Mais je veux toujours aller à l'essentiel. Notre Église de Jésus-Christ dans le monde est bâtie sur l'essentiel, pas sur le secondaire. Elle est bâtie sur la vérité du cœur, de la pensée, de l'être uni à Jésus. Alors, et notre destination, c'est de participer à l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint pour l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas quelque chose de long. L'éternité n'est pas quelque chose de pesant. J'ai fait l'expérience un jour, et je l'ai déjà dit, que j'ai passé toute une nuit dans une immense église qui est dans l'obscurité, et un ami jouait de l'orgue, du bac, et puis il est parti vers 11h30, il a laissé la porte un peu légèrement ouverte, et il ignorait que j'étais là, et moi toute la nuit, tout était illuminé, lumineux. Il y avait de la lumière partout, comme de la neige, dans les murs surtout. Et j'étais dans une paix immense. Et j'ai compris que l'éternité, c'était une paix immense, donnée, savourable. Et je suis parti à 6h15 pour aller travailler. à l'usine pour évangéliser. Mais cette paix m'avait donné la force. Je n'avais pas un gramme de faiblesse, de fatigue durant toute la journée. Et l'expérience a été unique, était la seule. Ce qu'il y a, c'est une expérience qui m'a montré que la paix de Dieu surpasse toutes les paix. La présence de Dieu donne la paix. Et elle efface tous les troubles et toutes les fatigues. Et ainsi, dans l'éternité, la paix de Dieu efface le deuil, le chagrin, la mort, les angoisses. Voilà le cadeau de Dieu. La paix et la joie en Dieu. Donc, la première chose, ne vous oubliez jamais, le petit chemin, c'est glorifier Jésus. Glorifier Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Jésus vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui affermira, vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, nous sommes appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ressuscité, vivant. Et Dieu nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel cadeau de prendre le chemin d'une consécration intérieure envers Jésus-Christ et son Père des cieux. La deuxième chose, non seulement le glorifier, mais l'écouter. L'écouter, chers amis, c'est essentiel. Écouter Jésus, mais où? Comme une dame me disait un jour, j'avais essayé d'étudier l'évangile avec elle. Elle avait refusé, ça arrive souvent, je ne me décourage pas pour ça, je ne m'offusque pas. Il y a un temps pour tout, c'est le temps de la grâce, ce n'était pas le moment, ce n'est pas à moi de le forcer. Et donc, 17 ans plus tard, elle m'appelle pour faire des études bibliques. Et elle me dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que Dieu parle avec vous tout le temps. Alors je lui réponds, ben oui, je lis la parole de Dieu tous les jours, je l'aime, et elle rentre dans mon cœur. C'est pas seulement un livre, c'est lui qui me parle. Alors bien sûr, elle a bien dû se mettre au travail aussi, au travail spirituel de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons été éduqués en Europe à mettre la Bible de côté, à la considérer comme un ennemi. Il y a chez nous une aversion pour la parole de Dieu. Il faut la rejeter au nom de Jésus-Christ. Il faut la rejeter. C'est une œuvre de Satan qui s'est répandue en Europe par bien de faux responsables chrétiens. Mais nous devons être dans la parole. Alors, je vous lis Luc 2, 49. Regardez la simplicité avec laquelle Jésus parle à ses parents. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voulez-vous l'approbation de tout le monde pour pouvoir lire la Bible? Mais non, pas du tout. Regardez bien Jésus. C'est dans la solitude, chers amis, c'est dans la responsabilité personnelle que on découvre quelles sont les affaires de notre Papa du ciel. Quand David a dû combattre Goliath, David qui était un minus par rapport à ses sept frères, qui étaient des super costauds, des Rambo, eh bien, David est arrivé, il a vu Goliath qui se insultait, etc. C'était une méthode classique dans toutes les guerres, dans le temps, à cette époque-là, Les troupes se regardaient, ça pouvait durer 40, 50, 60 jours, 2 mois, hein, à s'humilier, à s'insulter et à faire craquer psychologiquement les autres. Et si vous voulez, la défaite est d'abord intérieure. C'est une méthode très, très efficace, une méthode de manipulation, de domination mentale. Attention aujourd'hui avec des manipulations mentales. Alors ce qui se passe, c'est que David arrive, lui, comme un cheveu dans la soupe. Ça ne marche pas pour lui. Il dit à ses frères, au roi Saül, mais il est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et alors, il demande au roi la permission d'aller combattre Goliath. Pourquoi? Parce que pendant de tant d'années, le petit Minus, celui qu'on ne considérait pas comme le meilleur dans la famille, gardait les moutons et les chèvres dans les montagnes. Et il défendait contre le lion et l'ours, il défendait ces braves animaux grâce à sa fronde. Vous pouvez prendre ça pour une blague, mais au Kenya, dans les montagnes du Kenya, les Maasai, qui vivent dans des collines extrêmement élevées, et qui ont leur village sur les sommets, entouré d'épines pour se protéger des lions, et pour mettre leurs brebis et leurs chèvres à l'abri, ils apprennent à leurs garçons à manier la fronde. Et quand leur fils est capable de manier la fronde efficacement, il part parfois 10-15 jours avec le troupeau, dans la nature. Et son arme, c'est la fronde. Ce n'est donc pas une blague, cette histoire de fronde. Un petit caillou peut vaincre un ennemi puissant.
Ah, c'est Marie-Hélène au téléphone.
Alors, l'autorité de l'expérience de la solitude, la solitude de David, la solitude de sa résistance aux lions, aux ours, d'où est-elle venue? C'est une solitude que Dieu a voulu. Et c'est dans la solitude que la fortification spirituelle s'est établie. Donc aujourd'hui, quand je vous voyais que Jésus dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Eh bien, évidemment, les affaires de mon Père, ce n'est pas toujours quand on est à 50, 100, 200. C'est une attitude interrelationnelle entre Dieu et moi.
Il avait pris un rendez-vous.
Alors, je vais continuer. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. À la fin du 1er siècle, quand Apollos écrit cette épître, il a la perception, plus qu'évidente, que les chrétiens ne sont pas des auditeurs exacts du Dieu vivant, du Christ ressuscité. Et c'est la même chose, Jacques. Hein? Jacques, dans son épître, fait la remarque. Donc c'est un phénomène qui s'installe très rapidement dès le début du christianisme. Nous sommes des auditeurs oublieux, distrayeux, et nous n'avons pas réellement l'audition parfaite. Et alors, je vais vous lire ceci, Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, c'est le psaume 95 évidemment, verset 5 à 7.
Hein?
Après, comme il est dit plus haut, je l'appellerai tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin du premier siècle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc Jésus ressuscité est invisible et il parle. Jésus parle. Et mon problème, c'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est pour ça que je vous rappelle cette phrase intime, « Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. » Je ne peux pas être dans l'endurcissement envers Jésus. pour entendre sa voix, pour entendre son être, pour faire l'expérience de son être dans ma vie, je ne peux pas être un sourd, un incrédule. Alors, c'est un choix du cœur, c'est un choix responsable. Et au verset 12, il n'y a pas seulement l'expérience intime, intime intérieure, il y a l'expérience en même temps de la véritable parole de Dieu en prenant la Bible. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, donc pensez à l'épée des soldats romains, hein. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Donc la parole de Dieu est capable de me mettre devant moi-même et de partager ce qui est entre mon âme et mon esprit. Il y a des choses de l'esprit qui viennent pourrir mon âme. Il y a des choses de l'esprit qui viennent dévier mon âme. Et l'épée est là. Elle te dit, non, écoute plus tout ça. Ça vient de toi, ça vient de ton enseignement, ça vient de ta société, ça vient de tes convoitises. Non. Laisse ton âme bien tranquille auprès de moi et ne la perds pas, ne la laisse pas se perdre. Et la parole de Dieu dit ceci, je continue, Hébreux 4, toujours dans le verset 12, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand vous êtes seul, c'est pas forcément dans une assemblée du dimanche, hein, ça peut arriver, évidemment, mais c'est régulièrement, c'est plusieurs fois, jour et nuit. Il faut que la parole juge mes sentiments et les pensées de mon cœur. C'est elle la balance de l'exactitude, de l'équité, de l'équitable, du véritable. Ce n'est pas moi l'arbitre, c'est la parole vivante, c'est Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'arbitre humain valable parmi nous chrétiens pour une vraie vie spirituelle. Même un pasteur, même un conseil d'église. Comprenez-vous? Alors, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres textes très rapprochés dans le même sens, dans Hébreux, au chapitre 2, verset 12. C'est une insistance. C'est donc une insistance de la part du prédicateur Apollos devant un phénomène spirituel qui s'est installé où on n'entend plus le vrai Dieu qui parle, mais on entend des voix de nous qui nous parlent et qu'on prend pour celles de Dieu. Alors, Hébreux 2, verset 12. Donc Jésus, c'est la fin du verset 11, n'a pas honte de nous appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, donc le nom du Père, à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. N'est-ce pas cela que Jésus veut faire en nous? M'annoncer le nom de mon Papa. Établir, consolider une relation entre le papa et l'enfant. C'est ça le vrai ministère de réconciliation de Jésus aujourd'hui, à chaque instant. Faire de moi l'enfant de mon papa. Et Jésus dit encore dans Hébreux 2, 13, « Je me confierai en toi ». Vous voyez l'attitude de Jésus, elle est exemplaire. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Regardez quel grand amour que Jésus a pour nous. Donc, écouter un tel Jésus, un tel Seigneur, faire l'expérience intérieure. Mais si vous ne l'avez pas, ce soir, dites-le, dans votre chambre, dans votre voiture, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. » Il n'y a rien de plus grand, de plus vrai, de plus juste, de plus amoureux de moi que toi. Tu es le cœur de ma vie. Aussi, je te donne toute ma vie. Prends-la et conduis-moi dans la voie de la sagesse, de la vérité, de ton amour, pour rencontrer mon Papa du ciel avec toi. Amen. Alors, au chapitre 3, Hébreux, chapitre 3, versets 5 à 6, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il a annoncé la loi. Il a donné la loi, Moïse. Hein? Mais Christ l'est comme fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison, oikos, nous sommes la maison du Fils. Nous sommes la maison du Fils. Donc, lorsque je glorifie Jésus, que je l'aime, que j'écoute sa parole, que je lui donne ma vie, je suis participant de sa sainte maison, de sa sainte communauté d'amour. Et je suis sous sa bénédiction. Voilà. C'est très, très important, chers amis. Il y a bien sûr des textes formidables qui insistent toujours sur ce fait d'écouter, de lire, d'aimer la parole de Jésus pour lui, pas pour moi. Pour le connaître, lui, pas pour moi. Pour moi, les effets viendront après. Les effets viennent après. Mais il n'y a pas d'intention narcissique, égoïste, dans une relation avec Jésus. C'est une relation d'offrande. D'offrande. Alors, c'est dans... Excusez-moi. C'est dans Matthieu 17, verset 5. Pourquoi Dieu aurait-il perdu son temps à entraîner Pierre, Jacques et Jean à la suite de Jésus au mont Hermon après 6 jours de marche pour simplement leur dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Pourquoi Dieu perdrait-il autant de temps? N'est-ce pas? Matthieu 17, verset 5. Une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection, écoutez-le. Vous retrouvez ces paroles, bien sûr, Ésaïe 42, verset 1, et dans lors du baptême dans le Jourdain. Alors, faire 6 jours de marche à 3 gaillards derrière Jésus, uniquement pour entendre ça, est-ce que ce n'est pas solennel? Est-ce que ce n'est pas primordial? Et ainsi pour nous. Avons-nous fait ces 6 jours de marche? Avons-nous fait cet effort, cet investissement personnel d'être auprès du Seigneur et de l'écouter? Voilà la situation. Nous sommes tellement habitués à vivre en quatrième vitesse et à faire tout en quatrième vitesse. Mais 6 jours de marche, vous imaginez? Et puis aller-retour, il faut retourner. Et tout cela pour entendre une chose qui est unique. Écoutez-les, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et donc aujourd'hui, notre investissement premier, mes amis, c'est vers Jésus. c'est vers Jésus. Prenons Romains 15, 18. Romains 15, 18. Je suis loin d'avoir fini mon message d'aujourd'hui. J'achèverai donc, nous sommes quel jour? Lundi. Je continuerai mercredi. Évidemment. Je suis passionné par ce sujet parce qu'il est la clé de votre vie et de la mienne. Et il est ce que Jésus demande, ce que Dieu a demandé par son Fils. Alors, je suis dans Romains 15, 18. Verset 18. Quand Paul dit ceci, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. C'est pas de l'orgueil du tout, c'est tellement Paul a été mis au service par Jésus. Il est devenu le serviteur de Jésus. Et puissions-nous, à la fin de notre vie, dire, mais j'ai fait ce que mon maître m'a demandé. Alors, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. Donc, tout ce qui n'était pas en Christ, c'est pas la peine d'en parler. Mais alors, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, dans sa faiblesse, dans sa petitesse, Dieu est intervenu pour que des hommes qui étaient dans la désobéissance complète obéissent à la parole de l'Évangile. Et, pas seulement obéir en pensée, mais par les actes. Il y a donc quelque chose de formidable, c'est que Paul, mis à l'écoute de Jésus, a engendré cette contagion, mise à l'écoute et obéissance de Jésus chez d'autres. Colossiens 4, 12. Vous savez, Paul a eu des échecs, hein? Tout le monde n'a pas accepté non plus, ni dialoguant pas le message. Mais il a persisté, il a continué. Colossiens 4, 12. C'est une phrase que j'adore, que j'aime, hein? Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Afin que parfait, au pluriel, hein, parfait et pleinement persuadé, au pluriel, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà, des amis de Paul, il a un combat intérieur, spirituel, dans l'invisible, dans la prière, dans l'intercession. Un combat, pourquoi ? Pour que les chrétiens soit parfait et pleinement persuadé. Persuadé, c'est-à-dire intimement uni à Jésus. Et pour que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Regardez à quel point la consécration d'Épaphras nous interpelle. Cette consécration, c'est aussi celle à laquelle nous sommes appelés. Et pourquoi, chers amis ? Pourquoi faut-il une telle consécration ? Mais pour être une offrande parfaite à Dieu, une offrande d'amour, sans faille, comme Jésus, pour lui être semblable. Alors, finalement, ce chemin-là, il va nous conduire où? parce qu'on aime bien de savoir le futur. On aime bien de savoir que le meilleur nous attend. Eh bien, pour aller dans l'amour trinitaire, être plongé dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est incommensurable cet amour. Il est absolu, transcendant, glorieux. Et cet amour, c'est la réalité qui nous attend. Une manifestation plénière, le plérôme, la plénitude de Dieu. Et n'oubliez jamais, Dieu n'est pas un Dieu de bagatelle, de basse grâce. Il a un trésor infini de richesses pour nous. La richesse glorieuse de la Trinité nous attend. Alors, s'il vous plaît. Incroyable. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Finalement, dans ce chemin de gloire, ce chemin de plénitude, il y a une condition souveraine. Il faut appartenir au Saint-Esprit de Christ et être conduit par son Saint-Esprit. Et c'est cela qui sera le sujet du message de mercredi. Il ne faut pas perdre ce chemin de la vie puissante dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas notre esprit. Ce n'est pas nos pensées. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde grâce et paix et joie ce soir, cette nuit et tous les jours, tous les instants. Amen.